Au fil des mots,
une émission proposée par l'école des mots Marie Lannelongue, médiathèque de Lafitte Bigordan. Et nous retrouvons Luc. Bonjour Luc.
Bonjour Gisèle.
De bonnes nouvelles, j'espère, pour la médiathèque Marie Lannelongue de Lafitte Bigordan. Et un édito peut-être, comme chaque fois, c'est habituel.
Eh bien oui, j'aime bien, d'abord bonjour à toutes et à tous. Et comme d'habitude, ben, j'aime bien donner un petit peu mon avis, mon sentiment sur tout ce qui tourne autour du livre et de la lecture.
Bon, oui.
Jusqu'à présent, je m'étais forcé de vous donner des bonnes raisons pour vous plonger dans les livres. Bon, peut-être que maintenant, vous êtes convaincus des bienfaits de la lecture.
Mais tout à fait.
Oui, ben, je l'espère, que ça ne sert pas à rien. Mais je suis certain que d'autres vont profiter pour entamer une nouvelle polémique. Il y en a qui doivent déjà revendiquer leur préférence pour l'utilisation du numérique, arguant que le papier est dépassé, qu'il faut vivre avec son époque, et puis que les réseaux sociaux et le web sont des sources de culture bien plus pratiques à utiliser de nos jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gisèle.
Moi, je préfère le livre.
Ben, on sera deux, alors. Parce que je vais vous donner quelques petites remarques, juste comme ça, pour commencer. Quand vous ouvrez un livre, vous n'avez pas besoin d'identifiant et de mots de passe.
Tout à fait.
Qu'on a tendance à toujours oublier. Il n'y a aucun algorithme dans le livre qui peut suivre votre lecture et en extraire vos données personnelles pour éventuellement les revendre à des tiers. En plus, aucun logiciel ne peut suivre vos réactions. Et puis en plus, ne peut pas savoir à qui vous allez offrir ou donner ce livre. Et quand vous lisez, vous n'avez aucune application qui vient interrompre votre lecture par des messages publicitaires ou politiques ou simplement en rapport avec ce que vous êtes en train de lire. Moi, je suis persuadé que plus que jamais, lire un livre papier, ça reste la plus grande des libertés.
C'est vrai, je le confirme.
Ceux qui préfèrent le numérique, ils vont me dire que cela est valable, que lorsqu'on lit des textes directement sur des sites, c'est là qu'on rencontre des problèmes. Mais pas quand on utilise les fameuses liseuses numériques. Ah, ces liseuses, tout un poème. Et tout ça pour lire des e-books. Rien que le mot me fait froid dans le dos. Encore un anglicisme, tout ça c'est pour être à la mode en fait. Eh bien écoutez, cela je leur dis, détrompez-vous. Pour utiliser ces fameuses liseuses, vous devez vous abonner, ou acheter, et télécharger vos lectures. Sur un site internet, bien sûr. Lequel site peut ainsi connaître tout de vous, selon vos choix de lecture, la fréquence de vos achats. Et de plus, vous leur donnez vos coordonnées. Elles sont nécessaires pour obtenir le téléchargement des livres. Donc, vous retombez dans le même système. Et tout ce que je vous ai dit précédemment s'applique à nouveau. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais insister une dernière fois. Je vais encore vous donner des bonnes raisons, et celles-là pour préférer justement le livre en papier.
Le livre, un objet physique, c'est vrai.
Tout à fait, voilà. Et bien rien que ça, ça vaut tout l'or du monde. Parce que le livre, il est palpable. Il fait appel à nos sens, au toucher, à l'odorat. Un livre, ça se feuillette, ça s'écorne, ça se sent. Qui n'a jamais pris une grande inspiration pour respirer et sentir l'odeur de son livre? Contrairement à la lecture sur une tablette, prendre un livre en main, c'est le peser, c'est prêter attention à sa couverture, à la manière dont il est relié, quel est le papier qui est utilisé. Tout cela, ça fait appel à nos émotions. Et ça nous fait bien plus rêver que le froid design d'une liseuse.
Et bien sûr, un livre se trouve dans une bibliothèque.
Mais tout à fait, Gisèle. C'est un véritable objet de décoration. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une immense bibliothèque chez soi? La bibliothèque, c'est un meuble ouvert sur l'autre, avec un véritable pouvoir social. Elle attire l'œil, elle attire la curiosité de ceux qui viennent chez nous. Elle est susceptible de créer un sujet de discussion ou de provoquer un prochain achat. Bah, c'est plus difficile de se vanter de montrer sa collection d'e-books sur sa tablette de lecture.
Oui. Une lecture, ça fait voyager dans l'espace.
Voilà, on peut dire que c'est spatialisé, parce que c'est un besoin de notre cerveau de se repérer dans l'espace. Il est plus facile de se repérer dans notre lecture en voyant concrètement le nombre de pages qu'il nous reste à lire. Parce que sur notre livre électronique, quand il vous dira qu'il en reste 64%, vous n'êtes pas bien avancé. Et puis surtout, on aime tourner les pages en léchant notre doigt. Vous vous souvenez, comme à l'époque, quand on était petit, et avoir un joli marque-page. Ben tiens, regardez ce joli chaton, il n'est pas mignon ? Les livres en version papier, ils ont aussi un autre pouvoir, c'est qu'ils facilitent la concentration, la compréhension. C'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs canadiens et norvégiens. D'après eux, la lecture d'un livre papier permettrait d'avoir une meilleure représentation mentale de son contenu que sur un ou toute autre tablette. Et selon la personne, Anne Mangen, qui a dirigé l'étude, cette expérience confirme que l'ergonomie et la sensation du toucher du papier comptent réellement dans l'acte de lire.
Oui, mais un livre, ça se conserve longtemps, longtemps.
Eh oui. Alors que beaucoup d'entre vous se demandent qui, du livre papier ou du livre numérique, est le plus écolo. Et on constate que les livres papier ont l'avantage d'avoir une durée de vie généralement plus longue que celle des livres numériques. Même soumis à l'épreuve du temps, ils peuvent résister aux chutes. Et ce n'est pas le cas de votre tablette. Et ils peuvent être conservés des milliers d'années. La preuve, on en a. Et de plus, ils n'ont pas besoin d'apport en électricité pour être chargés.
Oui, en effet. En plus, les livres, c'est quand même relaxant.
Ah oui, parce qu'à l'heure du numérique, Gisèle, on passe des heures face à un écran, que ce soit celui du smartphone, de notre PC ou bien tout simplement de la télévision. Lire un livre papier, c'est couper et se déconnecter du monde virtuel pour une meilleure évasion. Nos yeux se retrouvent ainsi moins fatigués par la lumière bleue des écrans. Elle est considérée comme nocive par de très nombreux chercheurs.
Et en plus, c'est plus facile à prêter un livre aussi.
Diable ! De plus en plus de gens se tournent aujourd'hui justement vers cette économie du partage. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les initiatives comme les cabanes à livres qui se multiplient un peu partout dans le monde. Il y a même une tendance nommée, encore un mot anglais, « book crossing », qui consiste à faire circuler des livres en les libérant dans la nature pour qu'ils puissent être retrouvés et lus par d'autres personnes qui les relâcheront à leur tour. C'est comme ça d'ailleurs qu'on en trouve dans certaines grandes villes, sur des bancs, tout simplement posés et livrés aux passants qui voudront s'en charger. C'est une belle initiative, je trouve, qui permet de donner l'accès à tous à la lecture. Alors, dites-moi, avec des tablettes, c'est un peu plus compliqué, non ?
Et on ne parle pas du choix que l'on a avec le papier.
Ah oui, alors là, les livres en papier, ce sont des millions de livres qui sont édités dans le monde. Alors que, bien que les catalogues des liseuses deviennent de plus en plus conséquents, on est loin d'atteindre des chiffres pareils. Et puis après tout, attendez, comment retrouver votre livre préféré édité en livre de poche en 1974 ou tout simplement un vieux Mickey et son bolide de Walt Disney sur une version électronique ? Ben, vous pouvez toujours chercher.
Et puis, il y a une chose importante, c'est qu'un livre, c'est aussi une œuvre d'art.
Oui, c'est deux choses. C'est une œuvre d'art. Il y a des livres qui sont magnifiques, c'est une œuvre d'art en soi. Mais cela peut aussi devenir une œuvre d'art. C'est-à-dire que quand le livre papier est vraiment plus utilisé, qu'il est en bout de course, en fin de vie, on peut encore en faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple tout bête. Dans notre médiathèque, tous les vieux livres qui ne sont plus du tout lus, qui ne sont plus au goût du jour, on s'en sert. À Noël, on a construit un arbre de Noël avec les enfants, on construit un arbre de Noël. On peut aussi faire des découpages, des pliages, et ça donne des jolies œuvres qui peuvent perdurer un peu plus l'idée du livre.
Eh oui.
De quoi d'ailleurs faire de la déco pour une chambre d'enfant, si ce n'est une bibliothèque. Donc je pense que là, on ne peut pas aller contre.
Ah oui,
il n'y a aucun argument qui va défendre les liseuses. On est pour le livre papier.
Exactement. Et je suis tout à fait d'accord. Nous allons passer à l'actualité de la médiathèque Marie Lannelongue de Lafitte-Vigordan. Cette exposition, comment ça s'est passé ?
Eh bien, l'exposition, elle est toujours en place, puisque le vernissage avait eu lieu il y a un mois et demi, je crois. Enfin, les œuvres sont toujours dans les locaux de l'École des mots Marie-Lannelongue. Ça permet ainsi d'apprécier et de découvrir. Il y a une cinquantaine de tableaux, le travail de cet artiste qui est assez original et prolifique. L'exposition est toujours libre d'entrée et elle restera en place jusqu'au 2 juin 2018. Je vous rappelle les heures d'ouverture. Ce sont les mardis de 17 à 19h, les mercredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h30.
Belle exposition et il faut aller la voir, elle est magnifique. Est-ce que cette année, nous aurons une autre édition de Lafitte en livre ?
Oh que oui ! Bien sûr, après le succès de la première édition, que ce soit par les auteurs présents et par le public, la deuxième édition est sur les rails. La manifestation se déroulera le dimanche 16 décembre. Et cher ami auditeur, vous pouvez d'ores et déjà cocher la date sur vos agendas, si vous ne voulez pas la rater. Parce que, encore une fois, elle sera consacrée à tous les secteurs de la littérature, du livre d'enfants illustré au roman policier ou de science-fiction, en passant aussi par les livres pratiques, aussi bien sur le coaching personnel que la cuisine diététique, ou même de superbes livres photos, sans oublier les recueils de poésie. En un mot, il y en a pour tous les goûts. Les inscriptions pour les auteurs, éditeurs ou libraires sont déjà ouvertes. Un petit rappel, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante, mediatek.lafitte@wanadoo.fr, ou alors d'aller sur la page Facebook, l'École des mots Marie-Lannelongue, médiathèque de Lafitte Vigordane, et de laisser un message.
Bien, nous tarde déjà cette journée. Mais en attendant, on va faire un clin d'œil à un personnage. Quel est-il ce mois-ci ?
Le mois dernier, on avait parlé d'un monsieur qui avait un certain âge, et là, on passe à l'autre extrême, il s'agit d'un petit jeune homme qui démarre dans la vie professionnelle, que je tenais un petit peu à féliciter pour son travail. C'est un jeune talent émergent qui habite bien sûr notre village de Lafitte Vigordane. Il suit actuellement dans le cadre de l'école Écran de Toulouse une formation, alors c'est compliqué, de bachelor, concepteur, designer, graphique depuis septembre 2017. Alors en fait c'est quoi ? C'est une formation en alternance, qui est l'équivalent d'une licence troisième année qui est sanctionnée par un diplôme Bac plus 4. Son projet à lui, c'est de travailler plus tard comme concepteur graphique et en parallèle, de pouvoir monter un projet pluridisciplinaire qui regrouperait la musique, la vidéo et les autres arts visuels. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait de la musique et qu'il s'initie aussi à la vidéo depuis peu. Alors ce jeune homme, il s'appelle Anthony Neumann. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de sortir vainqueur d'un concours organisé par la Société des eaux thermales de la Léchère des Bains, en Savoie, qui voulait créer son affiche officielle. Il y a eu 250 projets qui ont été proposés. Les 20 affiches retenues par un jury de professionnels ont été soumises au vote des internautes, et qui ont en fait publicité celle du jeune Anthony. Donc je pense que c'était quelque chose qui était à noter. La station thermale savoyarde va être représentée durant toutes les campagnes publicitaires de la saison 2018 par une affiche créée par un jeune lafittois. Ça valait bien un petit clin d'œil.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et bravo à lui, et puis on espère qu'il réussira. On va passer maintenant à un auteur, un livre, donc une autre séquence. L'appel du néant, c'est de Maxime Chatan et c'est aux éditions Albin Michel.
D'abord, je vais vous parler un petit peu de cet auteur, Maxime Chatan. On en entend beaucoup parler, hein, c'est un auteur qui est très connu. Maxime Chatan ou Maxime Williams, qui est la même personne, sont des pseudonymes de son véritable nom, Maxime Guy Sylvain Drouot, qui est né dans le Val-d'Oise en février 1976. C'est un romancier français qui s'est spécialisé dans le roman policier. Petite anecdote, people, il est aujourd'hui marié à l'animatrice Faustine Bollard depuis 2012 et il est père d'une jeune fille né en 2013 et d'un garçon né en 2015. Vous savez tout. Maintenant, revenons à lui. Au cours de son enfance, il a fait de fréquents séjours aux États-Unis. Il a séjourné en 1987 à Portland, dans l'Oregon. C'est d'ailleurs la ville qui lui inspirera son premier roman. Alors au début, il rêvait d'être comédien. Pour cela, il suit le cours Simon. Il devient même figurant dans un spectacle de Robert Hossein et joue dans plusieurs téléfilms. Puis en 88, il décide de partir voyager et il passe un certain temps dans la jungle thaïlandaise. Il en profite pour rédiger un journal de cette expérience et c'est là qu'il va marquer ses premiers pas dans l'univers de l'écriture. Après, il fait plusieurs petits boulots pendant plus de 2 ans. Il reprend ses études de lettres modernes. Il écrit un roman, Le Cinquième Règne. En 1999, il devient vendeur de romans policiers à la FNAC. Il publie quand même ce Cinquième Règne en 2003 sous le pseudonyme de Maxime Williams. Suite à cela, il décide de suivre une formation en criminologie pendant 1 an à l'Université de Saint-Denis. Et il apprend ainsi les rudiments de la psychologie criminelle et de la police technique et scientifique ainsi que de la médecine légale. C'est ce qui va surtout influencer donc ses futurs écrits. Toujours libraire, il consacre ses week-ends à son projet de thriller. Il rédige « L'âme du mal » en 2001, qui est publié chez Michel Lafon. Et là, il va signer pour la première fois du pseudonyme de Maxime Chatham. C'est en référence à une petite ville de Louisiane. Ce livre va créer la surprise. Et il va conquérir rapidement un nombreux public. Et il va devenir ainsi le premier volet d'une trilogie du mal, c'est lui qui l'appelle ainsi, qui sera suivi de In Tenebris en 2003 et de Maléfice en 2004. Après cela, il va écrire de très nombreux titres qu'il aime bien regrouper sous forme de séries, comme par exemple Le cycle de l'homme et de la vérité, qui comprend Les arcanes du chaos, Prédateur, La théorie Gaïa. Et plus récemment, ces dernières années, il a commencé à écrire la série qu'il appelle Ludivine Vanquer. Ludivine Vanquer, c'est un personnage qu'il a créé, qui est lieutenant à la section de recherche de Paris. C'est une jeune femme à la fois forte et fragile. Elle mène une existence sans réelles attaches affectives, de peur d'être blessée. En fait, c'est une gendarme efficace et très intuitive. Dans le premier roman de la série, La Conjuration Primitive, paru en 2012, elle est lancée dans une enquête où plusieurs tueurs en série taguent sur leurs victimes un symbole identique pour revendiquer leur appartenance à un groupe. La Patience du Diable, qui est le deuxième volet de cette série, lui est consacré à une épidémie de meurtres qui se répand dans toute la France. La montée progressive de la violence, avec des gens de tous âges qui pètent les plombs sans raison apparente. Et c'est un vrai mystère, que ce soit dans un TGV au cinéma en pleine rue ou dans un centre commercial, ces tueries sans réel lien apparent plongent la fameuse Ludivine et toute son équipe de la section de recherche de Paris dans une enquête très complexe. Et le dernier tome de cette série, c'est donc L'appel du néant, qui a été édité en 2017, et c'est le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un gros pavé. Hein, il doit faire à peu près 600 pages.
Ah, quand même.
Mais il se lit très facilement. Bien sûr, c'est un policier. Et ce qui est surprenant, c'est que quand j'ai choisi ce livre, ce n'était pas délibéré. Et pourtant, on va retrouver dans cet ouvrage le même thème évoqué le mois dernier, si vous vous souvenez, dans l'ouvrage de Daniel Rondeau, « Mécanique du chaos ». On retrouve le problème de la montée de l'islamisme radical et des risques d'attentats sur le sol français. Ils traitent en fait tous les deux, de façon différente bien sûr, la même problématique. C'est à croire que ce sujet, qui est très actuel, interpelle particulièrement nos auteurs contemporains. Pour preuve, ils arrivent à se rejoindre dans des domaines différents sur la même thématique. Alors comme je vous le disais, ce qui est différent, c'est que cette fois-ci, le sujet est traité sous la forme d'un polar. Mais un polar extrêmement bien documenté. peut-être même trop au goût de certains lecteurs qui reprochent à Chatham de ne pas y retrouver tout à fait son écriture habituelle, qui était assez pertinente, assez prenante. Là, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de théories, mais ça vaut quand même la peine de les lire pour comprendre ce qui se passe. Quelques mots sur le livre. Lors des prémices de cette enquête, on va découvrir que la problématique liée au terrorisme, que ce soit son fonctionnement, son recrutement, sa mise en place, ou les difficultés à y faire face, vont être un élément phare du livre. Et en parallèle, on suit un Libanais, un homme qui toute sa vie a été autant bon que cruel. Bon avec ceux qui sont dans le besoin et cruel avec ceux qui le méritent, selon lui. Un djinn, comme sa mère l'a souvent qualifié, en référence à l'islam. C'est un être surnaturel, capable d'influencer le genre humain, spirituellement parlant. D'ailleurs, dans le roman, Chatham l'appelle au début djinn, tout simplement. Cet homme est recruté par le Hezbollah, et il est impliqué dans la guerre civile de son pays. Mais il va surtout jouer un rôle majeur en Europe. À travers cet homme, Maxime Chatham va nous démontrer comment on arrive à des situations extrêmes telles qu'elles se produisent dans nos rues, de plus en plus fréquemment, engendrant de nombreuses victimes. Et l'actualité nous a rejoints, puisqu'il n'y a pas si longtemps, ces événements se sont passés pas très loin de chez nous, puisque c'était à Trèbes et à Carcassonne. On va pouvoir suivre, à partir de là, le cheminement de ce phénomène, que ce soit sur le plan géographique, pour savoir comment ces choses-là naissent et arrivent jusqu'à nous, que spirituel, même émotionnel. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Toutes ces voies parallèles vont trouver un point de convergence que Chatham va nous mettre en place d'une manière subtile et aérée. Tout ce qui a trait ici dans ce livre au terrorisme est intéressant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que même si c'était détaillé, moins évident à lire qu'un simple polar, ça valait le coup de s'y intéresser. Je fais référence par exemple au recrutement des terroristes ou encore aux barrières qui se placent face aux enquêteurs par rapport au cadre légal, judiciaire ou simplement tactique pour remédier à ce fléau. Et aux limites des services de renseignement, de la sécurité intérieure, qui se heurtent à des pratiques toujours de plus en plus rodées de la part de ces terroristes et effectuées avec prudence, donc malheureusement de plus en plus efficaces. Mais l'auteur nous présente quand même une police qui évolue dans les moyens, à la limite presque de la science-fiction, mais ô combien réelle. La menace est en constante évolution, la police ne restera donc pas en reste. Maxime Chatham a décidé dans ce livre d'utiliser le terrorisme comme élément principal pour imager le mal absolu, développer nos peurs, nos angoisses. Franchement, c'est difficile de faire mieux. Et quand on parle du mal absolu, oui, mais aux yeux de qui? Le final, lui, est condensé de subtilité, mais aussi d'angoisse. L'auteur déroule le dénouement en plusieurs actes, par paliers, en escaladant toujours un peu plus vers l'horreur. C'est alarmant. Ce qui rend le lecteur fébrile, c'est que tout ceci est aussi malheureusement dramatique que réaliste, voire même réel et franchement plausible. Oui, car la grande subtilité et ingéniosité dont fait preuve Chatham, ici, est malheureusement similaire à celle dont font preuve d'autres personnes, peut-être même en ce moment où je vous parle. Bonne lecture, et puis bonne chance à tous.
Et maintenant, notre coup de cœur musical du mois.
Pour ce coup de cœur, on va peut-être redécouvrir ou découvrir pour certains Un automne à Paris. C'est très poétique ce titre.
Le titre est très poétique, mais le contenu l'est un peu moins, puisque ce titre, c'est un poème qui a été écrit par Amin Maalouf, qui a entre autres été pris Goncourt en 1993, pour rendre hommage aux victimes du terrorisme, justement. C'est pour ça que, oui, pour rester un petit peu dans le même cadre, j'ai choisi ce morceau qui, par contre, est magnifique. Il est chanté par Louane et accompagné à la trompette par Ibrahim Malouf, ainsi que par l'Orchestre National de Radio France et les chœurs de la maîtrise de Radio France. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a commandé cette chanson enregistrée en janvier 2016 pour la diffuser justement dans les écoles et faire travailler les enseignants là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez toujours, dès le mois prochain pour d'autres avis sur la lecture, d'autres découvertes de livres. Et donc avant de nous quitter, écoutons ensemble Un automne à Paris.
Paris, la tête haute, aux hommes qui sont venus des quatre coins de la terre, dans l'unique espoir de vivre la tête haute, aux femmes qui ont subi humiliation et violence pour avoir osé garder. Pour tous ceux qui ont pleuré, ensemble nous resterons main dans la main. Nous reprendrons les accents des aînés qui ne sont plus, leurs mots au milieu des nôtres. Nous chanterons j'ai deux amours, douce France. Non, je ne regrette rien. Dans la langue de Racine, de Sangor, d'Apollinaire, de Proust, de Kadeb Yassine, nous chanterons. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres. Ensemble, nous chanterons, main dans la main. À vous tous qui gardez foi en la dignité de l'homme dans tous les pays du monde et pour toujours. L'avenir vous appartient, il vous donnera raison, il sera à votre image et pour toujours. Vous pourrez voir refluer le fanatisme, la haine, l'aveuglement, l'ignorance et pour toujours. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres. Ensemble, nous chanterons main dans la main. Pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont pleuré, dans nos rues comme en nos âmes, pour toujours un témoignage de liberté.